ces exemples-là, faire des peines, me brûler, discriminer, on a honoré les papas. Je vais vous parler de l'importance du Père, mais aussi vous parler de l'importance de connaître Dieu comme son Père. J'ai bien conscience que le sujet de la paternité peut évoquer, chez l'un ou l'autre, certains souvenirs douloureux liés à un parcours, à un passé qui a été difficile, peut-être une histoire compliquée, des relations particulières, peut-être, ou bien l'absence d'un père, l'abandon, le rejet, l'abus, la violence. Moi, je vous parle en tant que quelqu'un qui n'a jamais connu son père biologique. Alors, je ne serai pas autorisé à parler en faveur de tous ceux qui ont un parcours difficile et qui ont eu de la difficulté à trouver leur identité. Avoir un père, c'est un cadeau, c'est même un privilège. Dans notre pays, un enfant sur quatre n'a plus ou peu de contact avec son père. Et lorsque le couple se sépare, dans 80% des cas, les enfants restent avec leur mère. Et c'est d'autant plus difficile que la maman doit jouer le rôle du papa et de la maman. Et ça devient vraiment compliqué. Et nous devons avoir à leur égard beaucoup, beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension. On a longtemps pensé que seule la mère était indispensable et que le père jouait un rôle secondaire. Aujourd'hui, on sait que le père joue un rôle essentiel auprès de l'enfant. Dans son livre « Le vrai rôle du père », Jean Le Carnet, qui est un professeur de Foucault à l'Université de Toulouse, écrit ceci « L'influence du père est bien plus large que le simple registre de la loi et de l'identité sexuée. Il est une rampe de lancement vers les autres. » J'aime cette expression. Il est une rampe de lancement vers les autres. Le père, dit-il, joue un rôle dans la construction de l'intelligence et du langage, et il ajoute, sa maturité s'accomplit lorsqu'il donne la vie et fait grandir l'autre. C'est bien ça le rôle d'un père, c'est donner la vie et de faire grandir ses enfants. Dieu a voulu que mes enfants puissent disposer d'un papa et d'une maman. Il est à l'origine de la famille. D'ailleurs, pour être tout à fait précis et juste, théologiquement parlant, Dieu n'est pas seulement un papa, il est aussi une maman. Il est son rôle de père et de mère. Déjà dans l'Ancien Testament, vous avez cette expression « El Shaddai » que les théologiens ont traduit par « le Dieu Tout-Puissant ». Et en réalité, si vous voulez comprendre le sens réel de cette expression, il faudrait traduire « le Dieu qui connaît ». Autrement dit, qui nourrit et qui prend soin des siens comme le ferait une maman. Dieu est à la fois un père, mais il est aussi à la fois une mère. Et c'est ce que traduit l'apôtre Paul dans ses écrits lorsqu'il dit « On a été pour vous comme une nourrice ». Et là encore, on retrouve cette dimension maternelle. Mais revenons au père ce matin. Éphésiens 3 dira « Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. » Il est le Père de toute famille. Alors, le rôle du Père est tout à fait complémentaire à celui de la mère. Schématiquement, vraiment très schématiquement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin, le temps nous est compté, la mère réconforte. Alors que le Père stimule. Et si vous avez en mémoire les épisodes de la gloire de mon père, de Marcel Pagnol, vous parlez. Le Père qui stimulait son fils et son fils qui était admiratif de votre père. Le Père est un repère. Et quand même quelqu'un a dit une société sans père est une société sans repère. Le père joue un rôle dans la construction de l'identité parce que c'est lui qui transmet l'identité à son enfant. Les garçons s'identifient à leur père. Il est un modèle, un premier fils admire leur père, et plus tard, elles recherchent leur père dans la relation avec un garçon. Le fil est coupé bien. Vous cherchez un homme. Un homme, pas un garçon, un homme. Un mari. Posez-lui la question. Posez-vous la question. Sera-t-il un bon père? Non, pas pour vous, mais pour vos futurs enfants. Et les gars, si vous cherchez une femme, posez-vous la question. Dans votre cheminement, dans votre parcours, et nous encourageons ça dans la préparation mariage, que voulez-vous construire? C'est une question fondamentale. Que voulez-vous construire? Posez-vous la question, sera-t-elle une vraie mère? Non pas pour moi, mais pour mes futurs enfants. Un père, c'est quelqu'un qui va donner, c'est quelqu'un qui va se donner et qui va s'impliquer dans la vie de ses enfants. Il va pouvoir aux besoins de ses enfants. Matthieu chapitre 7 dit ceci, « Qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?» Si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Le Père donne, il se donne, il s'implique, il s'investit pour le bien de ses enfants. Et qui montre par sa disponibilité, par sa présence, qu'il aime ses enfants. La plus belle chose que vous puissiez offrir à vos enfants, les papas, c'est de passer du temps avec eux. Passer du temps avec les enfants, c'est leur montrer concrètement et pratiquement que vous les aimez. Ce n'est pas forcément une question de quantité, mais une question de qualité. Je me souviens quand les enfants étaient plus petits, la mère qui était hyper sportive, et quand ils sortaient de l'école, ils étaient tous dans un monde. Alors, on bougeait. Alors, je prenais systématiquement 10 minutes, 15 minutes à mon repas et on foutait tous les deux dans un ballon. J'étais là intensément pour lui. Et ce moment-là figure parmi les meilleurs souvenirs de son enfance qu'il a eu et qu'il a aidé à traverser toute cette période qui était une période difficile pour l'école. Il fallait rester assis pendant des heures. Aujourd'hui, il apprécie l'école. Les trois phrases les plus courantes que les enfants entendent dans la bouche de leurs parents sont ceci. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas l'argent. Laisse-moi tranquille. C'est éducateur. Ça nous parle. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas l'argent. Laisse-moi tranquille. Quand les parents chrétiens que nous voulons être, nous souhaitons être, s'impliquent dans la formation de leurs enfants en leur donnant des bases, des fondements sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer. Une grande dimension, comme disait Jean-Luc Camus, j'aime beaucoup cette expression. Puisqu'au fond, un enfant est comme une plante. Il a besoin d'un tuteur pour pousser droit. Et celui qui va faire office de tuteur, de colonne vertébrale en quelque sorte, c'est le papa. Et on comprend que quand le papa est absent, eh bien, il y a quelquefois des soucis dans la construction de l'identité. Il y a soucis, parfois de l'anxiété, parfois de l'insécurité, parfois une valeur de soi-même dégradée, une image de soi dévalorisée. Et le Seigneur le sait. Et ce matin, on va prier pour ces situations et demander à Dieu de intervenir parce qu'il le peut. Le livre des Proverbes a beaucoup de choses à nous dire. Il regorge de conseils judicieux. Par exemple, au Proverbe chapitre 20, le texte biblique nous dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Au chapitre 22, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce qui marque le fait de notre implication et de la nécessité et notre implication. Alors, on va s'assurer quand même les uns les autres ce matin, les parents parfaits, ça n'existe pas. On est d'accord. Le papa parfait, il n'existe pas. Il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est le Seigneur. C'est Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des êtres humains, limités, faillibles, imparfaits. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à ne pas juger Dieu sur la base de votre vécu avec vos parents, et notamment avec votre père, ou votre absence de père, ou les relations difficiles ou douloureuses avec votre père. Parce que quand bien même votre père aurait été le meilleur des papas, il n'est qu'une petite réplique. Il n'est qu'une mince imitation de celui qui est parfait. Alors, Dieu le Père est parfait. Et pour certains, même le fait de considérer Dieu comme un Père peut donner quelque chose de très douloureux en besoin justement du parcours que vous avez eu. On va lire un texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 11, un passage dans lequel les disciples demandent à Jésus de lui prendre à prier. Et en fait, il est en train de les initier à une relation avec Dieu. Et la première chose qu'il va dire dans Luc au chapitre 11, ça va être notre Père. C'est l'introduction à la prière de notre Père. Luc au chapitre 11. Voilà ce qu'on lit ici. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseignez-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit : Quand vous priez, notre Père céleste. Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dites notre Père, c'est ce que dit Jésus. Dites notre Père lorsque vous vous approchez de lui dans la prière. Au temps de Jésus, cette expression est révolutionnaire. Certes, la notion de père existait déjà dans l'Ancien Testament, en première partie de la Bible, et cette expression est utilisée 19 fois. Mais le formalisme religieux avait tellement étouffé cette dimension-là que l'image de Dieu était complètement défigurée. Et Jésus vient ici pour restaurer, rétablir l'image de Dieu le Père. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve cette expression 70 fois. Il dira : celui qui a vu, celui qui m'a vu, a vu le Père. Jésus vient ici pour lever du blocage, lever les freins et nous aider à découvrir Dieu comme notre Père. Alors, j'aimerais vous entraîner un petit peu dans le contexte gréco-romain de cette époque-là, pour bien saisir ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples et à ses contemporains. Un message qui traverse le temps et qui nous rejoint aujourd'hui. Dans le contexte de l'époque, l'une des divinités grecques s'appelait Zeus, un programme de 6e ou de 5e, je crois, en histoire. Zeus, qui est appelé le Père. Mais le terme en était venu à signifier monarque impitoyable. Dans la mythologie grecque, Prométhée avait donné le feu sacré aux hommes, avait donné la vie et le feu sacré aux hommes. C'était un bienfaiteur. Mais il entre en conflit avec Zeus, le Père, qui lui inflige un supplice. Il est attaché à un rocher et chaque jour, un ongle vient le torturer en lui dévorant le foie. Sa souffrance perdure parce que chaque nuit, son foie repousse. Voilà ce que Dieu fait à ceux qui font du bien. Autrement dit, voilà ce que les Grecs pensaient des dieux. Les dieux sont impitoyables, les dieux sont pour la guerre, les dieux sont froids, les dieux sont pour les forts. Aucune compassion, aucune affection, aucun soutien, aucune aide pour qui que ce soit. Alors, il y avait à cette époque-là aussi des courants philosophiques. Un premier courant était celui des stoïciens. Un seul attribut pour les dieux, c'était l'apathie. La faculté de ne rien ressentir, d'être stoïque. Et la pensée était celle-ci, les hommes sont faibles dans leurs relations les uns avec les autres, ils ont la faculté d'éprouver des émotions, mais les dieux sont parfaits. Ils sont froids, imperturbables, sans passion, sans émotion, et rien ne peut les atteindre, ils sont stoïques. Voilà leur idée. Et puis d'un autre côté, vous avez un autre courant qui est celui des épicuriens. La qualité suprême de Dieu, disait-il, c'est le plaisir et la paix absolue. C'est un obstacle. Et si les dieux s'impliquent dans les affaires des hommes, ils perdent leur paix et leur plaisir serait gâché par la souffrance des hommes. Voilà ce qu'il croyait. Les dieux des stoïciens, froids, sans émotion, sont des épicuriens détachés et du bonheur. Et en plus de ce courant de pensée, vous aviez les pharisiens. Pas les parisiens, les pharisiens. Le pharisiens. C'est cette croyance. Alors, leur Dieu, c'était le Dieu des 613 commandements de la loi que personne ne pouvait mettre en pratique. Autrement dit, tu ne peux pas prendre à Dieu, c'est impossible. Une religion était mêlée de légalisme, de mépris des pauvres, de privilégiation, de ségrégation, de sectarisme, et la pratique de ces 613 commandements était devenue un esclavage religieux, où le fait d'être accepté de Dieu était mission impossible. Alors Jésus arrive au milieu de tout ça. Il dit, lorsque vous adressez à Dieu, dites, notre Père, notre Père. Alors, une question qui se pose ce matin, c'est comment est-ce que je peux découvrir Dieu comme mon Père? Comment pouvons-nous le découvrir comme notre Père? Parce que bien sûr, lorsque je prie personnellement, je peux dire mon Père. Lorsque nous prions de manière collective, nous disons notre Père. La première chose, c'est que je peux découvrir Dieu en accueillant Jésus-Christ dans ma vie, de manière personnelle, toute une expérience personnelle. Jean chapitre 1, verset 12, en parlant de Jésus-Christ qui est la lumière qui vient dans le monde, dit ceci, à tous ceux qui ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Autrement dit, je n'ai pas chrétien, mais je le deviens par un choix personnel en accueillant Christ dans ma vie, de façon tout à fait libre et volontaire. Et chacun d'entre nous, nous avons la possibilité de le faire. Ce n'est pas réservé à une élite, mais chacun d'entre nous, nous pouvons devenir chrétien. Il vient éclairer ma vie de cette réalité et je deviens enfant de Dieu. Autrement dit, j'hérite d'une identité que je n'avais pas auparavant. Je deviens enfant de Dieu et je suis introduit dans cette grande famille de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que l'Église, c'est la famille de Jésus. Je pense là en particulier à tous ceux qui ont eu un parcours chaotique, à tous ceux qui ont été aimés par un Père, qui ont attendu des paroles d'encouragement. C'est bien engageant, c'est bien assuré. Je pense à notre propre vie de famille. Je me souviens de certains épisodes lorsque mes fils se réveillaient le matin. Je les appelais les princesses. Elle n'avait rien de princesse parce qu'elle barillait, elle sortait du lit, et puis. Mais pour moi, c'était une princesse. C'est quelque chose qui les a suivis dans leur parcours. Avoir un papa qui les encourage, une maman qui les encourage. On vous dit que la vie est faite de petites choses. De petites choses. Mais c'est là qu'on peut voir ce que nous laissons derrière. On a eu l'occasion de faire un enterrement cette semaine. On a enterré un grand-père. Et c'était une expérience très bouleversante et très touchante. Ce sont les enfants qui ont rendu témoignage à leur grand-père, à leur père et à leur grand-père. Et l'une des petites filles a évoqué le parcours de son grand-père en disant qu'il avait laissé un héritage à toute la famille, avec de sa générosité, avec de tel et tel aspect de son caractère, sa personne, il avait laissé une marque. Vous souhaiterez laisser une marque dans la vie de la famille, ce n'est pas pour vous, mais c'est possible. Et même si vous n'avez pas d'enfants, il est possible, comme l'a rappelé Sébastien tout à l'heure, comme l'a dit M. Marcel, d'être des pères, des mères spirituelles, de pouvoir accompagner, de pouvoir grandir quelqu'un dans la foi. C'est quelque chose de remarquable. Comment est-ce que je peux découvrir Dieu comme mon père? Eh bien, en me laissant conduire par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai cette vie de Dieu en moi, la vie nouvelle de Christ en moi, eh bien, je bénéficie d'impulsions intérieures, il y a un mouvement intérieur qui me conduit à vivre pour Dieu et à faire ce à quoi je suis appelé. Romains 8, par exemple, dira ceci: en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui vous met encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Le grec, le Nouveau Testament est écrit en grec, et le mot père se dit pater en grec. Mais ici, c'est le mot Abba qui est utilisé, c'est le mot araméen, c'est une variante de l'hébreu qui est un terme intime, affectueux. On peut traduire par papa. Jésus l'a entendu. Il dit voilà. Vous entrez dans une relation d'intimité. Contrairement au Dieu grec, il y a là une dimension d'intimité, une dimension de relation personnelle dans laquelle vous pouvez entrer. C'est réservé à tous. Il n'y a pas de favoritisme pour Dieu. Chacun peut connaître cela. Je peux m'approcher de Dieu personnellement au travers d'une relation d'affection. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Galates, écrit aussi à des hommes et des femmes qui sont retombés dans du formalisme. Il dit, parce que vous êtes ce fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie en bas. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Tu es aussi hérité de Dieu par Christ. Dieu n'est pas le père que je n'ai pas eu ou que je n'ai voulu avoir ou que je n'ai pas connu. Il n'est pas le père de la religion, mais le père qui cherche à développer avec chacun d'entre nous une relation personnelle. Le psaume 68 dit aussi: le premier des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa salle de bain. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Une autre version dit: Dieu donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. L'Église, la grande famille des chrétiens. Il est proche de ceux qui se font. Il est proche de la famille monoparentale. Il est proche de la maman qui se débat au quotidien avec des soucis d'éducation, avec le souci de joindre les deux bouts. Il est proche du papa qui doit jongler avec son travail et peut-être une garde alternée. Il est proche des parents, proche des grands-parents, qui parfois assiste impuissant la famille qui est en train de se déchirer. Le psaume 27 dit ceci: même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. C'est un psaume qui est particulièrement précieux pour moi, le psaume 27. C'est un psaume qui est écrit par David. Le roi David a été un homme qui a été particulièrement rejeté dans sa vie, rejeté par son père, rejeté par sa famille. Et il a construit son identité dans une relation personnelle avec Dieu. Et ce qui est frappant lorsqu'il écrit les psaumes qui sont ces prières qui étaient chantées, c'est un musicien fameux, un compositeur. Et ce qui me frappe dans ce psaume, c'est le nombre de fois où il dit: Dieu est mon abri, Dieu est mon refuge, Dieu est mon rocher, Dieu est mon rempart, Dieu est mon bouclier. On sent qu'il a construit son identité dans cette relation personnelle qui a mis Dieu. Pour lui, Dieu était son père. C'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a beaucoup marqué et qui m'a fait comprendre. Je l'espère que vous aussi, que Dieu est un père pour chacun d'entre vous. Mon père. commentaire. Mon ami, mes amis, vous êtes accueillis de Dieu, vous êtes acceptés de Dieu, vous êtes désirés, vous êtes voulus. Votre vie n'est pas un accident, mais vous êtes accueillis et voulus. Et du coup, dans le cadre du conseil avec l'âme, on a eu droit à quelques témoignages très bouleversants, notamment cette jeune fille qui nous racontait que son papa voulait absolument un garçon. Et puis voilà, il est arrivé, c'était une fille. Et au moment de sa naissance, le papa a quitté le foyer parce qu'il voulait absolument un garçon. Et c'est une fille qui est arrivée. Et pouvez-vous imaginer le poids de culpabilité qu'elle a dû traîner durant sa vie, s'accusant d'être née fille? C'est terrible. Et là, elle nous racontait comment, au travers de sa conversion à Jésus-Christ, en découvrant Dieu, elle a accueilli Dieu comme son père, et à ce moment-là, elle a pu se construire une nouvelle identité. Mais ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Tu es accueilli ce matin. Tu es aimé de Dieu. Et mon problème devient son problème. Ma situation devient sa situation. Je pense que non, c'est un père qui ne pense plus. C'est un père plein de compassion. Le psaume 33 dit ceci. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mérite de nos fautes, mais autant le ciel est éloigné de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous les transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comprenez ce qu'il respecte. C'est ce que signifie ce mot. Alors, le Père n'est pas là pour excuser le fautes, mais il est là pour les effacer. Il ne vient pas pour nous faire croire que nous sommes dans le déni. Il n'est pas là pour être dans le déni, mais il est là pour nous délivrer. Il n'est pas là pour nous renier, mais il est ce thème sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et le plus beau, c'est qu'à notre tour, nous pouvons limiter et devenir, et chacun peut sa part, père, mère, spirituellement parlant, pour accompagner, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un. Donner un sens à nos enfants et le faire grandir. Un père, c'est quelqu'un qui s'implique généreusement dans le développement de ses enfants, un père qui prend exemple sur le père. Amen. Eh bien, je voudrais prier pour vous ce matin. Priez pour que, si vous êtes père, vous preniez votre place dans la famille. Priez aussi pour ceux qui souffrent de l'absence, ou qui ont souffert de l'absence, du rejet, de l'abandon, de l'abus, que sais-je, des relations conflictuelles, c'est de la prière pour vous. Pour que Dieu vienne mettre comme un baume sur votre cœur, vous encourager et vous consoler. Je pense à tous ceux qui n'ont jamais entendu une parole d'encouragement. Je pense à moi aujourd'hui, en préparant ce message, je pensais à un homme comme Bernard Tapie. Il y a bien longtemps, il a écrit un livre. Et on lui a posé la question, pourquoi tu se parcours dans votre vie, toujours à la force du cœur, toujours plus. Il a répondu, il a dit, j'ai toujours voulu que mon père me dise, c'est bien, c'est bien. Peut-être qu'il y a parmi nous des hommes, des femmes qui entendent qui attendent plus exactement que Dieu puisse permettre cela à un moment donné, qui attendent, qui souffrent de ça, qui attendent cette parole, qui n'ont jamais entendu. Ce matin, vous lui transmettez les salutations du ciel. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes accueillis de Dieu. Vous êtes pardonnés de Dieu. Les bras sont grands ouverts pour chacun et chacune d'entre nous. Et puis, a repris aussi pour que vous puissiez à votre tour devenir un père, une mère spirituelle, afin d'accompagner quelqu'un sur son parcours pour la faire grandir. On va prier. Je vous invite à prier. Je te remercie, Père, pour ta présence parmi nous ce matin, particulièrement ce matin. Je veux te prier pour tous les pères parmi nous, en te demandant de les aider à prendre leur place dans leur famille. Notre société ne peut pas être plus forte que ne le sont nos familles. Je te prie de les aider à construire avec toi, en tenant compte de tes conseils, de ta et de tes encouragements. Merci pour les pères au milieu de vous. Merci de les encourager, de les fortifier et de les aider à relever les défis dans les familles. Je te prie également pour ceux qui ont souffert et qui souffrent encore de l'absence de papa et qui vivent dans les regrets, peut-être dans l'abandon, dans l'abus, peut-être de relations conflictuelles, ceux qui souffrent de culpabilité, de complexes d'infériorité. Que l'image construise leur identité, qui sont encore aujourd'hui dans l'instabilité, dans l'insécurité, qui ont un sentiment, une image d'eux-mêmes complètement dévalorisée. Seigneur, je te prie, viens en aide. Tout ça, c'est quelque chose. Merci, parce que tu es le père des enfants, le défenseur de la vie. Et je te prie vraiment pour chacun d'entre nous qui croyons en ce message, qui ne sommes peut-être pas particulièrement père ou mère, mais qui avons le souci et le désir d'accompagner quelqu'un dans son parcours, dans son cheminement spirituel. Merci de faire de nous des hommes, des femmes, des pères et des mères, pour quelqu'un, des encourageurs, des stimulateurs pour quelqu'un. Afin qu'ils soient encouragés sur leur parcours. Béni Seigneur, ton Église en ce sens, au nom de Jésus, pour ta gloire. Et tout le peuple dit Amen. Merci beaucoup pour votre attention.